enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
D'applaudissements au Seigneur avec un cri de joie et de victoire. Dieu est si bon. Il est bon pour nous. Il est bon. Il est fidèle. Il est grand. Il est merveilleux. Dieu est si bon. Quel privilège que nous avons de le connaître. Sa bonté, sa grâce, sa provision, sa fidélité. Béni soit le nom de Jésus. Nous l'avons chanté, puis nous le croyons, Seigneur, que tu es bon. Ce n'est pas seulement un chant, c'est notre témoignage, c'est notre expérience, c'est la vérité. Dieu est si bon. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie au Seigneur ce matin? Un cri, Dieu est bon! On déclare sa bonté, on acclame sa bonté, sa grâce, son amour. Il est merveilleux. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ces moments, ta présence, merci pour l'onction de ton Saint-Esprit, merci pour ta parole. Aide-moi à bien communiquer ce message de ce matin. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que ton Esprit dit à l'Église, que ce soit bien communiqué, bien reçu Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour une transformation dans nos vies. On réclame l'onction pour ces quelques moments ensemble encore ce matin. Que ta volonté parfaite soit accomplie et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, on prie et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez votre Bible, regardez avec moi dans l'Évangile de Luc 24. Luc 24, qui est le dernier chapitre dans l'Évangile de Luc. C'est la conclusion du livre de l'Évangile de Luc, dans laquelle on découvre deux histoires. Il y en a trois, mais il y en a deux histoires avec laquelle il termine ce chapitre, avec un thème commun. Puis j'aimerais parler quelques instants au sujet du défi de bien comprendre. Le défi de bien comprendre. L'Évangile de Luc, chapitre 24, la conclusion de l'Évangile. Il y en a deux histoires avec un thème commun, dont la compréhension. On pourra résumer sommairement sa conclusion par « L'homme a de la misère à bien comprendre les choses de Dieu. » C'est comme ça que Luc termine son évangile. « L'homme a de la misère à bien saisir les choses de Dieu, mais, la bonne nouvelle, Jésus peut nous aider. » Combien sont heureux avec ça? C'est pour cela que nous allons prier dans quelques instants, que Jésus puisse nous aider à bien comprendre les choses de Dieu, bien saisir la richesse des Écritures. Rapidement, la première histoire, on n'a pas le temps de tout le lire en Luc chapitre 24, mais la première histoire, ça parle de deux disciples qui sont sur le chemin vers Emmaüs, sont confus, tristes et désespérés. Dans le verset 17, ça dit, « Jésus leur dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Deux hommes confus, tristes, qui marchent ensemble et sont un peu désespérés, faute à un manque de compréhension des Écritures. Et par la suite, Jésus les reprend pour leur manque de compréhension. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. » Et par la suite, Jésus ouvre leur intelligence avec une explication des Écritures. Verset 27. « Et commençant par Moïse, du début de la parole de Dieu, et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et le verset 31, ça dit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent. » Jésus les a aidés à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas. « Alors leurs yeux s'ouvrirent, verset 31, et ils le reconnurent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ces deux hommes qui ont passé d'un cœur lent un cœur en feu par une rencontre avec Jésus, par l'aide de Jésus avec la compréhension. La deuxième histoire est très semblable. Luc essaie de passer un message. Il essaie de conclure son évangile avec un message par rapport à la compréhension. Parce que la deuxième histoire est semblable. C'est plusieurs disciples qui sont ensemble et encore, il y a un manque de compréhension qui les donne comme un épouvante ou une crainte. Dans le verset 37, ça dit, ces disciples-là étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? C'est pas nécessaire d'être troublé, comme qu'il dit aux autres disciples. C'est pas nécessaire d'être triste. C'est pas nécessaire d'être troublé dans la confusion. Et pourquoi pareille pensée s'élève-elle dans vos cœurs? Et ça nous dit dans le verset 44, puis il leur dit, puis nous avons ces paroles ici sur l'écran, si vous n'avez pas votre Bible, parce que c'est le verset clé, ça décrit notre prière pour aujourd'hui, quand il voyait ses disciples dans la confusion, dans un manque de compréhension des Écritures, dans la crainte et tout cela, ça nous dit, verset 44-45, puis il leur dit, c'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur peut faire avec nous ce qu'il a fait avec ses disciples-là, que nous pouvons avoir un moment dans la présence de Jésus et que Jésus puisse ouvrir notre esprit afin que nous pouvons bien comprendre les Écritures. Je crois que vous êtes comme moi. Ma prière, c'est de comprendre les Écritures, non seulement ici dans la tête, mais bien comprendre les Écritures ici dans mon cœur. Est-ce que c'est votre prière? Que Jésus puisse faire avec nous ce qu'il a fait avec ces personnes-là, qui peut ouvrir notre intelligence, notre compréhension, notre esprit, notre cœur, pour bien comprendre les Écritures. Martyr, écrivain, prédicateur Dietrich Bonhoeffer, il a dit ces mots, « Un réveil authentique dans l'Église, ou dans un individu, on pourrait dire, va toujours produire un désir pour une compréhension riche des Écritures. » C'est pour cela que nous allons invoquer l'aide de Jésus ce matin. Dans quelques instants, on va prier et on va prier cette prière. « Seigneur, réveille-nous. Réveille-moi avec une compréhension riche de la parole de Dieu. » C'est ce qui est arrivé à ces deux hommes sur le chemin vers Emmaüs. C'est ce qui est arrivé aux disciples en Luc chapitre 24. Jésus les a réveillés par une riche compréhension de la parole de Dieu. Mais avant qu'on prie, j'aimerais juste vous parler quelques instants au sujet de la compréhension, ce que j'appelle le défi de bien comprendre, qui inclut également l'importance de cela. Nous sommes appelés non seulement à croire la parole de Dieu, mais à bien comprendre les richesses à l'intérieur de la parole de Dieu qui va faire une différence dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un de nos dépliants de promotion à l'Institut biblique du Québec, un dépliant qui demande la question, « Moi, à l'Institut biblique du Québec, pourquoi pas? » Une des phrases que nous avons à l'intérieur dit ceci, « Le tombeau est vide, mais il n'est pas nécessaire que nos têtes le soient aussi. » Dieu nous a donné un cerveau pour comprendre des choses et saisir des choses. Une autre phrase dit, « Il est vrai que l'éducation coûte cher. Toutefois, l'ignorance coûte encore plus cher. » Ça peut même coûter notre vie. L'ignorance des Écritures, l'ignorance de la parole de Dieu peut même coûter notre vie. Ça peut être un investissement, ça peut être un effort pour rechercher, étudier, prier pour bien comprendre la parole de Dieu, mais l'ignorance peut coûter encore plus cher. L'écrivain renommé C.S. Lewis a dit ceci, « Pour la vie chrétienne, il nous faut le cœur d'un enfant, mais la tête d'un adulte. » Une tête pour comprendre, pour saisir la parole de Dieu. Alors moi, je parle comme aux adultes ce matin, à ceux qui sont à la recherche d'une compréhension profonde des choses de Dieu, qui désirent bien comprendre la richesse de la parole de Dieu pour eux. Pour combien c'est votre prière ici ce matin? Montrez-moi vos deux mains. Si c'est votre prière, dis oui, je désire une riche compréhension. Je désire que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur. Je désire la révélation. Je veux avoir une compréhension des choses profondes de Dieu. Je désire que Dieu me parle par les Écritures. Et ma prière, puis on va prier dans quelques instants, c'est que Jésus nous aide à éliminer les obstacles à une bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce que ça ne donne rien d'avoir un désir de comprendre la parole de Dieu si on est empêché par des obstacles. Et je vais décrire quelques quelques obstacles dans quelques instants. Des obstacles à une compréhension profonde, efficace et surtout transformatrice. La compréhension de la parole de Dieu qu'on cherche est une compréhension qui va nous transformer. Comme ces disciples-là, ils ont passé d'un cœur lent, d'un cœur froid, d'un cœur dur, à un cœur en feu pour le Seigneur. Les autres disciples ont passé de la confusion et de la crainte à la joie. Et ce que nous cherchons, c'est une compréhension qui va nous transformer. Car le but de Dieu pour votre vie n'est pas seulement de vous emmener au ciel. Comprenez cela. Le désir de Dieu pour vous, c'est pas juste que vous rendez au ciel. Le désir de Dieu pour vous, c'est de vous transformer là, maintenant, ici-bas, en homme et femme de Dieu avec un cœur en feu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est le but de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que le but de la vie chrétienne n'est pas rien d'arriver au ciel, mais d'être transformé par la présence de Christ et par les Écritures. C'est pour cela que Jésus a dit en Matthieu 4, 19, quand il a appelé les disciples, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus n'a pas dit, « Suivez-moi et je vous emmènerai au ciel. » C'est ce qu'il dit. « Je ferai de vous. » Parce que le but de Christ n'est pas seulement de vous emmener au ciel. C'est pas seulement que vous arrivez à un endroit. L'appel de Christ est vers une transformation pour devenir quelque chose là, ici-bas. C'est un processus de changement. Et moi, je crois que le changement puis la transformation débute avec une bonne compréhension. Si nous voulons être transformés, il faut bien comprendre les richesses des Écritures et il faut invoquer l'aide de Christ. Aide-moi à ne pas manquer les richesses de ce que tu dis dans ta parole. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, en partant au sujet de la compréhension, il y a deux choses qu'il ne faut pas sous-estimer au sujet de la compréhension. Le défi de la compréhension, premièrement, et deuxièmement, l'importance critique de la compréhension. Premièrement, le défi de la compréhension. De bien comprendre les Écritures est un défi. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. D'arriver à une bonne compréhension des Écritures n'est pas si facile que ça. Même pour ceux qui se pensent disciples. Vous savez, des années que vous fréquentez l'Église, vous êtes un chrétien de longue date et vous dites, je comprends les Écritures. On ne peut pas prendre pour acquis une bonne compréhension des Écritures parce que même les disciples de Jésus trouvaient ça difficile. Jésus lui-même, un de ses grands défis sur la terre, c'était de se faire comprendre. Il y avait la difficulté avec ça, même avec ses disciples qu'on va voir dans quelques instants. Il y en a qui vont dire, « Pasteur Marc, est-ce que Jésus avait la difficulté avec des affaires sur la terre? Est-ce que Jésus avait des défis quand il était sur la terre? Tout était facile pour lui. C'était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. » Vous savez qu'il y avait deux choses avec lesquelles Jésus avait la grande difficulté. Quand on lit les Évangiles, on remarque deux choses que Jésus ne pouvait pas faire. Deux choses que Jésus trouvait presque impossibles. Le premier était de faire taire les gens. Remarque les Évangiles. Jésus pouvait presque pas faire taire les gens quand il voulait les faire taire. Il y avait la grande difficulté. Malgré tous les miracles et les exploits qu'il faisait, malgré sa grande puissance, Jésus avait un défi de faire taire les gens. Marc chapitre 7, verset 36. Quelques exemples. Jésus le recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus il le publièrent. Comme nos enfants. Plus qu'on dit de ne pas faire, ils font. Un autre exemple, Matthieu chapitre 9, versets 30 et 31. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus vient de guérir les aveugles. Jésus fit cette recommandation sévère même. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Jésus trouvait impossible de faire taire les gens. Quand il voulait qu'il dise aucun mot, c'était comme plus fort que eux. Ils avaient une rencontre avec Jésus. Il fallait que ça sorte. Il fallait qu'il parle avec quelqu'un. Combien sont d'accord que ça, c'est notre expérience? C'est notre témoignage que quand que Jésus a fait quelque chose pour nous, il faut que ça sorte. Même si Jésus dit, parle à personne, c'est presque impossible. possible. Quand on a rencontré Jésus, c'est plus fort que nous. C'est là qu'on sait qu'on a une expérience avec Christ, quand qu'on peut pas s'empêcher. Il faut que je dise à quelqu'un, Jésus m'a libéré, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus a fait quelque chose pour moi. C'est presque impossible à cacher quand Jésus a fait quelque chose avec nous. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Parce que ça bouillonne à l'intérieur de nous. C'est pour ça que même si il disait sévèrement, dis à personne, il fallait qu'il dise de quoi. C'était difficile à cacher les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Puis on les comprend. C'est pas facile, ça, de cacher des miracles, d'avoir les yeux qui sont ouverts, les sourds qui entendent, surtout les résurrections. Comment qu'on cache une résurrection? Jésus te ressuscite, puis dit, dis à personne. Tu te promènes dans la ville, puis les gens disent, c'est pas toi qui t'es mort il y a 2 jours. Quand Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, c'est difficile à le garder pour nous-mêmes. C'était un des défis de Jésus sur la terre. Puis deuxième défi était de se faire comprendre comme il faut. La manque de compréhension chez les gens, même chez les disciples, était une source de frustration pour Jésus, je dirais même d'exaspération. Combien de fois Jésus était comme exaspéré? Vous ne comprenez pas encore! Comme s'il y avait la difficulté. C'est pour ça que c'est un défi de bien comprendre. Puis on ne peut pas prendre pour acquis, mais moi, je fais partie de la gang de Jésus. Moi, je suis un disciple. Moi, ça fait longue date que je vais à l'église. On ne peut pas prendre pour acquis la compréhension. Parce que malgré que les disciples avaient accès à Jésus en personne, ils étaient des témoins oculaires de sa vie. Ils entendaient ses enseignements en direct. Ils marchaient et mangeaient avec lui. Malgré qu'ils étaient loin d'être des novices, combien de fois qu'on a l'impression que Jésus est au bout de son rouleau face à leur manque de compréhension. Partout dans les évangiles, Jésus demande la question, vous ne comprenez pas encore, qu'est-ce que ça va prendre pour vous faire comprendre? C'était comme une source d'exaspération. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Un des meilleurs exemples de cela est trouvé dans l'évangile de Marc, chapitre 8, où ce que Jésus demande la question 2 fois. Il demande la question, on ne le regarde pas tout de suite, mais dans quelques instants, on va regarder ce texte-là, où ce que Jésus il est vraiment au bout de son rouleau, puis 2 fois, il demande au type, « N'avez-vous pas compris? » On découvre l'importance de la bonne compréhension dans ce texte. Que la bonne compréhension de la parole de Dieu est un défi. Et la compréhension de la parole de Dieu était d'une suprême importance pour Jésus. C'est pour ça qu'il était parfois même frustré ou il manquait de patience, que tu t'en encore pas, tu comprends pas encore. Et moi, je dis que si les disciples avaient besoin d'aide pour comprendre Jésus, encore plus moi, je ne veux pas être une source de frustration ou d'exaspération pour Jésus. Si les disciples avaient besoin d'aide, Marc le Comte a besoin d'aide encore plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas pour moi, mais pour vous-même. Pasteur Marc a besoin d'aide. Oh oui, amen, ça c'est vrai. Les disciples étaient présents au moment de l'action, en présence de Jésus. Ils vivaient dans la même époque, dans la même culture, puis avaient la difficulté à comprendre. Nous, on est éloignés de 2000 ans des disciples. Dans un autre pays, dans un autre temps, dans une autre époque, dans une autre culture, on peut pas prendre pour acquis avec une autre mentalité. On peut pas présumer de penser, bien comprendre les Écritures. Et dans notre société bruyante, technologique, multimédia, mouvementée, où notre span d'attention est à peu près 5 minutes, il y a bien d'autres choses qui crient pour notre temps et notre attention aujourd'hui et nos pensées que la parole de Dieu. De bien comprendre la parole est un défi. C'est remarquable dans les Écritures. Puis la deuxième chose qu'on apprend au sujet de la compréhension, non seulement que c'est un défi de bien comprendre, mais ça, les Évangiles nous enseignent l'importance critique de la compréhension dans l'économie de Dieu. Nous voyons ça partout dans les Évangiles. Luc choisit de terminer son livre de cette façon-là. De tous les thèmes que Luc aura pu choisir comme clôture pour son livre, il a choisi la compréhension, le défi de la compréhension et de l'aide que Jésus peut nous donner pour bien saisir les Écritures. Et on voit ça comme un thème partout dans les Évangiles. Même une simple lecture rapide des Évangiles nous démontre l'importance que Dieu place sur bien comprendre les Écritures. Jésus, d'être compris lui-même, d'emmener les gens à bien interpréter les Écritures, faisait grande partie du ministère de Jésus sur la terre. Le défi de la clarté et la compréhension. Combien de fois Jésus disait, est-ce que vous comprenez comme il faut? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça veut dire comprend les choses que je dis. Jésus voyait la compréhension comme partie intégrale de son mandat. Pour Jésus, c'était critique que les gens saisissent les significations clés par rapport à la vie spirituelle. Qu'ils connaissent comme il faut la nature de Dieu, le battement de son cœur, la signification riche des Écritures. Jésus voulait que les gens saisissent comme il faut la signification profonde de la révolution spirituelle qui prenait place devant leurs yeux. Jésus voulait qu'ils comprennent la signification des événements qu'ils vivaient et expérimentaient, le moment spirituel, historique. Jésus n'arrêtait pas de clarifier les priorités de Dieu, d'expliquer les principes du royaume qui sont souvent contraires à nos principes et les tendances de l'homme et la nature humaine. Il parlait des qualités et l'esprit du royaume de Dieu, le caractère de Dieu, la vraie spiritualité, mais souvent, comme nous allons voir dans le texte dans quelques instants, il y avait comme des obstacles, des empêchements. Jésus voulait parler des choses profondes et riches aux disciples, aux gens autour de lui, mais c'est comme il y avait des blocages. Comme s'il y avait des obstacles, des empêchements à la bonne compréhension des choses que Jésus voulait les expliquer. C'était comme s'il y avait manque de clarté ou la confusion. C'est pour cela que nous allons prier dans quelques instants. Jésus, enlève tout obstacle à notre compréhension. Enlève tout empêchement. Nous voulons saisir et comprendre ce que tu nous dis pour aujourd'hui de ta parole de Dieu. On veut bien saisir et discerner la signification du moment, le moment dans lequel on vit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu, avec le ciel ouvert et la conférence où ce qu'on a des milliers de pasteurs ouvriers qui viennent partout de la francophonie? Qu'est-ce que tu fais à l'Institut biblique avec des étudiants qui viennent partout de la francophonie? Qu'est-ce que tu fais ici à l'Église Nouvelle Vie? Qu'est-ce que tu fais dans la symphonie un peu mondiale dans la francophonie? On veut vivre le moment. On veut pas manquer ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Et moi, je prie Seigneur, enlève les obstacles, enlève les empêchements. Nous voulons bien comprendre les Écritures et ce que Dieu fait en ce moment. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? On veut enlève les obstacles. Parce qu'on voit que c'était un défi de comprendre. Qui enlève les blocages à la compréhension de sa parole. Qui nous amène à notre texte. Où ce que nous voyons Jésus ici avec les disciples, puis ça nous décrit, c'est juste un exemple, du défi de la compréhension puis les empêchements que les disciples avaient. Remarquez, lisez comme il faut, puis imaginez un peu la scène ici, Marc chapitre 8. Ça dit, puis il les quitta et remonta dans la barque. Jésus quitte la foule, il monte dans le bateau, dans le bar, pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains avec eux. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est presque comique. On oublie le pain. Quelqu'un n'a pas fait son travail. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi, et là on commence à voir un peu la frustration, l'exaspération de Jésus, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayez des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Exaspération, frustration. 2 fois, il demande la question. Est-ce que vous n'avez pas compris et saisi qu'est-ce que j'essaie de communiquer? Imaginez la scène. Enfin, Jésus a ses disciples seuls avec lui. Il vient quitter la foule, le bruit, l'action et tout ça. Enfin, imagine la scène. Jésus est seul avec ses disciples. Ils sont un peu dans la tranquillité, sont éloignés sur la mer, sont éloignés du bruit, le chaos, les distractions de la foule. C'est un bon moment pour l'apprentissage. C'est un moment pour, on appelle ça en anglais, un mentoring moment. C'est un moment pour mentor. C'est un moment pour que le professeur, le maître, enseigne ses étudiants dans la tranquillité. Ils sont tout seuls dans le bateau. Il n'y a pas de distraction à rien. Puis Jésus, il veut profiter de l'occasion pour enseigner des choses profondes à ses disciples. Imaginez un peu la scène. Et c'est un bon moment pour le maître avec ses disciples sur la mer à l'écart. Un contexte idéal pour la révélation. Puis Jésus essaie de les communiquer des vérités spirituelles profondes au sujet du légalisme, les pharisiens, l'hypocrisie, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, le levain des pharisiens, Hérode. Il essaie de les donner des avertissements. Il faut les mettre en garde contre des mauvaises attitudes, des tendances destructrices. Il les enseigne la vraie spiritualité versus la fausse spiritualité. Jésus veut servir de ce moment pour les enseigner des choses profondes et les disciples ne peuvent rien que penser au pain. Ils gaspillent le moment. C'est un moment que Jésus veut les apprendre. Il veut les emmener plus loin. C'est presque comique. On oublie le pain. Qui a pas fait son travail? C'est pas moi qui l'a fait. C'est peut-être lui. Est-ce qu'on va bien manger? Il pense rien qu'au pain. Jésus veut les communiquer des richesses profondes et ils sont préoccupés par des banalités. Ils ne comprennent rien. Souvent, on pense qu'on aimerait être comme les disciples. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? On est trop comme les disciples. Moi, mon problème, ce n'est pas que je ne suis pas assez comme les disciples. Mon problème, c'est que je suis trop comme les disciples. Combien de fois que je permets des choses banales, des pensées inutiles, à consommer mes pensées quand Jésus désire m'emmener à une autre place. Il désire m'emmener plus loin, plus profonde, mais moi, je suis préoccupé avec des banalités. Puis là, on voit un peu, on remarque que Jésus n'épargne pas ses mots. Il les a pas traités avec des gants de velours. Avez-vous remarqué cela? Des fois, on a cette image de Jésus comme toujours doux, toujours gentil, toujours compréhensif. On a des fois cette image de Jésus qui est hyper sensible. Il se choque jamais, presque efféminé. Vrai ou faux? Juste comme il flotte un peu, puis gentil avec tout le monde. Jésus n'a pas épargné ses mots. S'il y a une chose qui choquait Jésus, c'était des gens qui étaient préoccupés avec des banalités quand Jésus voulait les enseigner les richesses des choses spirituelles. Remarque les mots qu'il s'en sert. Il dit, « Êtes-vous encore sans intelligence? » C'est une autre façon de dire, « T'es-tu stupide? » Vrai ou faux? Jésus était un homme de caractère. De cœur, d'émotion. Des fois, il y avait la colère, l'impatience. C'était un leader qui n'avait pas peur d'appliquer l'amour sévère, comme qu'on voit ici. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endossé? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous pas point de mémoire? C'est assez sévère, merci. Vous êtes d'accord avec moi? Il les accuse d'un problème de cœur, des yeux, des oreilles et d'intelligence. Jésus voulait les réveiller. C'est pour ça qu'il a servi des mots sévères. Il voulait les réveiller. C'est un moment. Il y a des choses grandes et puissantes qui se passent autour de vous. Vous êtes dans la présence de Christ qui veut communiquer une richesse pour transformer votre vie et vous êtes préoccupés avec des banalités, avec le pain. C'est pour ça qu'il parlait sévèrement. Il voulait les réveiller, les secouer. Il dit, vous souffrez d'une maladie qui affecte tout le corps. Et c'était trop sérieux pour le prendre à la légère. Il voulait les secouer. Puis il parle de leur cœur, leurs yeux, leurs oreilles et leur cerveau. Puis il dit qu'il y a comme un complot de tous ces éléments pour semer la confusion. Comme s'ils travaillent en collaboration l'un et l'autre pour empêcher de bénéficier des moments avec Jésus. Est-ce que vous permettez que Jésus vous parle de cette façon-là de temps en temps? Moi, ma prière, c'est Seigneur, s'il faut, secoue-moi, bouleverse-moi, parle-moi sévèrement, parce que tu le fais avec amour. Pas pour condamner, pas pour éloigner, mais il le fait avec amour. Hey, je veux vous communiquer des grandes choses. Pourquoi que vous êtes encore pris avec des banalités? Jésus, secoue-moi, bouleverse-moi, réveille-moi, Seigneur. Donne-moi les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, un cœur qui reçoit, puis une intelligence pour comprendre. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? parle-nous s'il faut. On ne veut pas manquer les richesses des Écritures. Donne-moi une intelligence qui comprend la parole de Dieu. Quelqu'un a déjà dit, la plupart des chrétiens ont un cerveau comme Einstein, mort depuis 1955. Pas notre cas à nous, par exemple. Que Jésus touche mon intelligence, ma compréhension qui nous réveille. Libère-moi des choses qui m'aveuglent, qui endurcissent mon cœur, qui bloquent mes oreilles, nuit à mon intelligence, mon discernement, ma compréhension. Enlève les obstacles. Il y a quelques obstacles principaux à cela que nous voyons dans ce texte ici. On va les traiter une à la fois, puis on va finir quand on termine dans quelques instants et on va prier. Le premier obstacle qu'il faut enlever à une bonne compréhension qu'on voit chez ces disciples-là, c'était l'obstacle des soucis inutiles. Ma prière pour vous ce matin, c'est que Jésus enlève tous les soucis inutiles que vous avez qui bloquent la profondeur des Écritures. Les disciples souffraient d'une préoccupation inutile avec leur ventre. Le pain, leur appétit. Ils s'inquiétaient plus au sujet de la quantité de la nourriture qu'il y avait que sur la qualité des paroles que Jésus voulait les enseigner. Ils voulaient rien savoir des choses importantes au sujet du caractère et l'attitude. Ils étaient préoccupés avec le pain. On n'a pas assez de pain. Qui oublie le pain? Il faut avoir du pain. Il faut manger. Ils étaient préoccupés avec leur ventre au lieu des choses à l'extérieur. Le pain, au lieu d'être préoccupés avec les choses de l'intérieur, les richesses de la parole de Dieu. Les soucis inutiles. Ils étaient tellement préoccupés par le bien-être et la sécurité personnelle qu'ils n'attendaient pas les paroles profondes de Christ, préoccupés avec le pain et au lieu de la spiritualité. Jésus avait des grandes choses à leur communiquer, mais ils pensaient seulement à leur ventre, leur faim, leur manque. Ce qu'on appelle en anglais « creature comforts », les conforts de la créature. C'est ce qui nous préoccupe la plupart du temps. C'est la maison, c'est les vêtements, c'est la nourriture, c'est le confort, c'est la qualité de vie. Jésus pense aux choses profondes, puis eux, ils pensaient rien qu'au pain. C'était le superficiel. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes d'accord avec moi? Un peu comme un parent avec un adolescent, ça parle deux langages différents. Jésus voulait parler de ça, puis eux, ils pensaient juste à une autre chose. Jésus était un peu comme nous, les prédicateurs, qui arrivent à le point mire de notre message à midi moins quart. Puis on sait que tout le monde pense à leur dîner. Mais c'est tellement bon. Mais c'est presque midi, le temps de manger. Hein? On peut s'identifier avec Jésus des fois. On sait que vous le faites, hein? Jésus a de quoi de bien les partager, mais la nature humaine pense au pain. C'est correct si vous le faites avec moi. Mais il ne faut pas le faire avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus a de quoi à vous communiquer, il ne faut pas être pris par des soucis banals, inutiles. Je ne veux pas que mon ventre, la chair, les soucis du corps, les nécessités de la vie dominent sur mon esprit, mon intelligence, ma capacité de comprendre la richesse des Écritures. Et je sais que ce n'est pas facile. On a tellement de choses pour lesquelles on peut s'inquiéter. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que c'est pas facile. On s'inquiète. On a des comptes à payer. On s'inquiète sur le prix de l'essence. On a des dettes qui s'accumulent. On a une économie instable. On a un avenir incertain. On est parfois tourmenté par l'insécurité financière, préoccupé par survivre une autre semaine. Un peu comme les disciples. On a-tu assez de pain pour survivre sur le bateau? Et je sais que c'est pas facile pour quelques-uns. Des fois, on pense, est-ce que je vais survivre une autre semaine? Est-ce que je vais arriver à la fin du mois? Est-ce que je vais arriver à payer mes comptes? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir de la dette et on est préoccupé seulement à arriver. Et des fois, les inquiétudes nous consument. Et jour après jour devient semaine après semaine qui devient année après année et on manque des occasions pour aller plus loin, plus profonde et entendre la voix de Christ comme il faut. Jésus veut nous libérer de ces soucis-là afin qu'on peut aller plus loin avec lui. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Parce que ces soucis étouffent la parole de Dieu en nous. C'est ce que Jésus nous enseigne en Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 13. Jésus nous enseigne comment que ces soucis inutiles peuvent étouffer la semence de la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus dit ici? Celui qui a reçu la semence, ça c'est la parole de Dieu, ça, la semence qui est envoyée. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est qui? C'est celui qui entend la parole et la comprend. Pas seulement lui qui l'entend, mais celui qui la comprend. Lui, il porte du fruit. Et un grain en donnait 100, un autre 60 et un autre 30. Jésus nous parle des soucis ici. C'est quelle est la parole qui va porter fruit? Comment qu'on peut porter fruit? Avec la compréhension. Il dit la bonne terre, c'est d'entendre et recevoir la parole de Dieu et de le comprendre. Qu'est-ce qui nuit à la compréhension? C'est les soucis inutiles. On peut avoir des bonnes intentions. On est à l'écoute de la parole de Dieu. On est ici dimanche matin. On est réceptif à la parole de Dieu. On aime la parole de Dieu. On a une bonne attitude. Mais les soucis du siècle étouffent la parole pour pas qu'elle porte fruit, pour nous transformer. On est presque pas capable à respirer. La vie spirituelle passe à côté. C'est secondaire. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour porter fruit, mais c'est comme si on est étouffé. Et le mot inquiétude en grec, c'est merimnao, dont la racine signifie de mordre la gorge. L'inquiétude, c'est comme si quelqu'un nous mordre à la gorge. C'est comme si l'ennemi met ses dents ou ses griffes autour de notre cou pour nous étouffer. On entend la parole dimanche matin. On lit la Bible le matin, à tous les jours, mais tout au long de la journée, on a l'impression que l'ennemi met ses mains autour de notre cou et il nous étouffe. Les mains de l'inquiétude sont surtout le soir, quand les lumières sont éteintes et on est couché sur notre lit et les lumières sont fermées, c'est là qu'on commence à s'inquiéter. Et là, l'ennemi, il met ses mains autour de notre cou et là, il commence à étouffer par l'insécurité, la famille, la santé, les dettes, l'économie, l'avenir, puis il étouffe comme s'il met ses griffes autour de nous. Il nous étouffe par la crainte et l'inquiétude. Des fois, on a l'air bien dans le jour, on est comme des super-héros, on est comme des Superman, mais des fois, la nuit, on est comme des enfants. On est couché sur notre lit, puis on a peur des monstres qui vont sortir en bas de notre lit. Et des fois, c'est des monstres de l'inquiétude et de la crainte, et ça nous étouffe comme les griffes de Satan. Jésus décrit ça comme les soucis du siècle, parce que chaque siècle a ses propres soucis. Mais le Seigneur est là pour nous libérer des dents et griffes de l'ennemi, de la crainte, les inquiétudes, de l'inquiétude de l'avenir, des regrets du passé. Jésus est là pour enlever les griffes de Satan de sur notre cou, pour nous libérer de ses soucis, afin que nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Afin qu'on porte fruit, soyez libérés. Les soucis du siècle. Quels sont les soucis de notre siècle? L'économie, la terreur, le terrorisme, la guerre, l'environnement, les taxes, la politique, les maladies, le cancer, le divorce, la santé. Des fois, on est consommé par des choses plus banales, des choses du sport. Pour quelques-uns, c'est un souci. Est-ce qu'ils vont avoir l'hockey cette année? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Comme s'il y a de l'importance pour l'humanité. On s'inquiète pour notre diète, on s'inquiète pour la beauté, on s'inquiète pour la température. On s'inquiète si notre game de golf ne s'améliore pas. Ça, c'est une confession personnelle, ça. Puis nos pensées deviennent bombardées par cela. On lit les journaux, on entend les nouvelles. Crainte, 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 crainte. Nos pensées deviennent remplies, bombardées par cela, puis ça touffe la parole. Ça sème la confusion. Comme les disciples, le pain, on n'a pas assez de pain. On va mourir, on ne pourra pas manger. Mais on n'avance jamais. Dans Time Magazine, j'ai entendu quelqu'un dire que nous vivons dans une génération remplie et vide, remplie de crainte et vide d'espoir. Fearful and hopeless. Mais savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus peut aider. Jésus peut bannir la crainte et nous remplir d'espérance. Et ça, ça mérite un amen. Jésus peut aider. Il faut se rappeler qui il est. Il faut se rappeler ce qu'il a fait. On sert Jésus. Il est capable de venir en aide. Il peut nous guérir de notre amnésie spirituelle. Parce que les soucis inutiles sont souvent créés par ce que j'appelle l'amnésie spirituelle. Jésus les accuse d'une forme d'amnésie. Avez-vous remarqué cela? Il dit, avez-vous point de mémoire? Pourquoi que vous vous souciez pour le pain? Est-ce que vous avez une amnésie? Est-ce que vous avez déjà oublié les choses que j'ai faites dans le passé? Puis Jésus les demande ces questions. Il était comme stupéfié, émerveillé. Vous n'avez point de mémoire. Il vient juste de nourrir 5000 personnes. Il venait juste de nourrir 4000 personnes. Ça fait 9000 personnes que Jésus a nourri avec quelques pains. Et les disciples s'inquiétaient pour 13 dans un bateau. C'est pour ça que Jésus était émerveillé. Je viens de nourrir 9000 personnes. Et moi, je veux vous partager des choses profondes de Dieu. Et vous vous inquiétez pour 13 personnes dans un bateau. C'est banal, c'est inutile, c'est stupide. C'est l'amnésie qui amène les soucis inutiles. Jésus a dit, pour combien de fois vous allez, on parle de soucis inutiles, pour combien de fois vous allez inquiéter pour des choses que Jésus est capable de régler? Pour combien de fois que moi, je vais m'inquiéter pour des choses que Jésus a pourvues et réglé ample fois auparavant. Je sais qu'il est capable, mais je m'inquiète quand même. Et Jésus décrit ses inquiétudes comme des émotions inutiles, un gaspillage de temps, ça ne change rien, ça crée l'incrédulité, l'ingratitude, l'oubli et la crainte pour rien. Soyez libérés! Si Jésus l'a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui. Si Jésus a pourvu dans le passé, il va pourvoir pour demain. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Soyez libérés des soucis. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait dans le passé. Il va le faire encore aujourd'hui. Que Jésus bannit l'amnésie qu'on a. Une des plus grandes paroles libératrices jamais prononcées dans la parole de Dieu sont trouvées en Matthieu chapitre 6 au sujet de l'inquiétude. On va lire et par la suite on va prier que le Seigneur nous aide, nous libère de ses soucis. Jésus a donné des paroles qui nous libèrent. Quand il enseignait Matthieu chapitre 6, verset 25, ils sont sur l'écran. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ou une pouce à une minute à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent et ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jeté au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison. Jean, peu de fois, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? On n'a pas assez de pain. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père se laisse que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus le dit fois après fois après fois, ne vous inquiétez pas. Ça étouffe la semence, ça étouffe les possibilités, ça vous empêche et ça vous bloque d'entendre et comprendre les Écritures. Jésus vous emmène à une autre place, une autre étape. Souvent, nous, on est au superficiel et Jésus vous nous emmener où ce qu'il y a la profondeur. Et j'ai un mot pour vous ce matin qui est sur mon cœur, que le Saint-Esprit m'a donné, et c'est « ça va être correct, ça va être correct, ça va être correct. Jésus est là, soyez libérés de vos craintes, vos soucis, vos inquiétudes. Jésus est là, ça va être correct. Jésus va prendre soin de vous. » Est-ce que vous le recevez ce matin? « It's gonna be okay, ça va être okay. Jésus est là, ne vous inquiétez pas. » Là, Jésus a enlevé les griffes de l'ennemi. Il a enlevé ses soucis inutiles et banals. Jésus a pourvu dans le passé. Il va pouvoir aujourd'hui. N'inquiétez-vous pas, soyez libérés. Afin que la parole porte fruit dans votre vie. Il va pouvoir aujourd'hui. Que vos pensées se concentrent sur Jésus et ses paroles pour capter ceux qui désirent communiquer à chaque jour. Soyez libérés de ses soucis. Soyez libérés d'un faux sens de culpabilité ce matin. Parce que là, on voit qu'il se rendait coupable. Il pensait que Jésus était pour les condamner. Il pensait que Jésus était fâché. Il pensait que Jésus était pour les reprendre parce qu'ils n'ont pas pris assez de pain. Il était conscient de leur manque. Il était conscient de leur échec. Il était conscient de leur manque. Et leur faiblesse. Et Jésus s'en foutait de leur manquement. Il s'en foutait qu'il avait oublié du pain. C'était pas ça qu'il voulait les communiquer. Et soyez libérés de nuages de condamnation, de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'arrivez pas, que vous êtes un échec, que vous avez fait des erreurs dans le passé, vous avez des regrets, vous pensez que Jésus est choqué contre vous, vous pensez jamais que vous êtes apprécié, vous rentrez dans la présence de Christ comme si jamais vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas assez spirituel, vous ne priez pas assez souvent, vous n'êtes pas assez sanctifié, puis on a toujours l'impression comme si Jésus est choqué. Jésus n'est pas choqué contre vous, il a donné sa vie pour vous. Des fois, nous, on est préoccupés à part des erreurs que Jésus, ça fait longtemps qu'il a oublié. Il sait qui on est, il connaît nos faiblesses, nos péchés, mais il veut nous emmener à une place plus profonde, plus loin, mais on vit sur un sens de culpabilité qui est faux, comme les disciples. Oh là, il va choquer contre nous parce qu'on a fait un oubli, on a fait une erreur. Jésus s'en foutait de cela. Il ne voulait pas les corriger, il voulait les instruire. Soyez libérés des soucis inutiles et un faux sens de condamnation. Jésus est là pour vous. Jésus vous aime. Jésus vous chérit. Jésus va prendre soin de vous et laisse le Seigneur vous emmener à une place plus loin. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Jésus vous aime! On dit des fois en anglais, « I know Jesus loves me, but I'm just not sure he likes me. » Je sais que Jésus m'aime, mais je ne suis pas certain qu'il m'apprécie. Est-ce qu'il m'apprécie? Puis on a cette impression-là, bien. Puis on tourne en rond, puis on tourne en rond. Péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon. Puis on prie pour les mêmes choses. On pense que toujours que Jésus est choqué. On n'arrive pas à la hauteur. On n'est pas à la mesure. Puis on vit avec les regrets du passé. Vous allez entendre ce soir parler à ce sujet-là. On vit selon les regrets, puis les blessures du passé, puis les manquements du passé, puis les oublis du passé, puis les péchés du passé. Puis on ne pense jamais être à la hauteur. Ou on vit avec les craintes de l'avenir. Laissez Jésus vous libérer de cela. Laissez Jésus pardonner votre passé et vous donner l'espérance pour l'avenir, afin que vous pouvez vivre dans le présent. Trop souvent, on vit dans le passé ou on vit dans l'avenir. Jésus veut que vous profitez du moment du présent. La présence de Christ, sa parole, un moment dans les Écritures. Jésus veut parler à votre cœur et vous transformer en homme et femme de Dieu. Bannis les soucis, bannis le faux sens de culpabilité, bannis le superficiel. Les disciples étaient ici aux surfaces et Jésus voulait les emmener aux profondeurs. Combien sont prêts à quitter le superficiel puis aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ? Combien sont prêts à faire un engagement cet automne? Moi, je vais aller plus loin. Moi, je ne laisse rien bloquer ou m'empêcher de comprendre les Écritures. Jésus, viens au secours de moi. Que rien n'étouffe la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Ça va être correct. Le Seigneur va entreprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde? Juste un moment de prière tous ensemble. Je vais terminer juste là. Et on va avoir un moment de prière. Et je vais demander, peut-être qu'on peut juste fermer nos yeux tout partout ici dans le sanctuaire, juste pour un instant de prière, un instant de réflexion sur ce qui était dit, sur la prière que nous allons prier. On va prier que le Seigneur fait avec nous ce qu'il a fait avec ses disciples-là. On va prier que le Seigneur puisse bannir la confusion, qu'il puisse bannir la crainte, qu'il puisse bannir le faux sens de culpabilité. Les soucis de le concurrent, de statut social, de l'envie, la jalousie, l'argent, futur, avenir, emploi. On prie que le Seigneur nous bénisse de ces soucis-là. Ça va être correct. Peut-être que vous avez rentré ici ce matin et vous avez un bagage de soucis, vous avez beaucoup d'inquiétudes, vous ressentez un peu comme si les griffes de l'ennemi sont autour de votre cou. Vous ressentez un peu comme si l'ennemi vous a pris par la gorge comme ça, puis là, il vous étouffe par des inquiétudes, par des soucis et par des craintes. Moi, j'aimerais prier pour vous. Si Luc nous donne l'impression que Jésus, soit à l'écoute juste pour un instant avant qu'on prie, Luc nous donne l'impression que Jésus a pu faire quelque chose après la résurrection qu'il ne pouvait pas faire avant la résurrection. Que quand les gens avaient la difficulté après la résurrection, Jésus les a aidés. Jésus les a aidés. Jésus a ouvert leurs esprits, leur intelligence, afin qu'ils puissent être transformés, afin qu'ils puissent comprendre. Ma prière pour vous, pour moi, pour les étudiants qui arrivent pour Nouvelle Session, pour toute l'Église Nouvelle Vie, c'est une compréhension des Écritures. Puis une compréhension de la signification du moment. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Je ne vais pas le manquer. Quand je vois les wagons, la famille wagon arriver de la France pour une formation, lui et son épouse, Laurent Wagon, avec ses 4 enfants, arriver ici pour une formation, pour se lancer dans la grande moisson. Quand je vois un autre Christophe qui arrive ici hier, pour le camp, un autre de la France. Quand je vois un couple de la Suisse, la semaine passée, qui arrive ici, qui ont tout sacrifié pour venir ici pour suivre une formation. Quand je vois ce qui se passe, Nouvelle Vie, le ciel ouvert, toute cette symphonie-là, on ne veut pas manquer ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer pour la francophonie? Il y a des grandes choses qui se passent. On ne veut pas être pris par des choses banales, des soucis inutiles. On dit, Seigneur, parle à mon cœur. Moi, je veux faire partie de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est votre prière, ça? Libère-moi, Seigneur, pour voir, pour comprendre. Tes Écritures et ce que tu fais dans ma vie. Je prie que le Seigneur élimine la confusion. La confusion qui crée la tristesse, l'inquiétude, panique. Que le Seigneur bénisse cela et nous donne une fraîche révélation de qui il est. C'est une des meilleures prières qu'on peut prier ensemble. C'est Seigneur, aide-moi à comprendre. Ouvre mon esprit pour comprendre les Écritures. Une des plus grandes bénédictions qu'on peut avoir d'un Christ ressuscité, c'est la bénédiction de la compréhension. De comprendre non seulement avec notre tête, avec notre cœur, avec notre esprit, notre intelligence. Je veux comprendre les Écritures. Je veux aller plus loin avec toi. Pour combien c'est votre prière? J'aimerais que vous levez vos deux mains vers le Seigneur. Il dit, oui, Pasteur Marc, c'est ma prière. On va chanter le chant Jésus, me voici devant toi. On va le chanter tous ensemble comme une prière. J'ai besoin de toi. Le chant dit, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Me voici devant toi. Mes mains sont levées devant toi et j'ai une prière. Fais avec moi ce que tu as fait avec les disciples. Je suis tanné de la confusion, de l'inquiétude, de la crainte, les soucis. Bannis ces choses. Libère-moi, Seigneur. Me voici devant toi. Chantez-le tous ensemble et par la suite, on va avoir un mot de prière. Chantez-le comme une prière. Le Seigneur est ici par son esprit. Tout le sanctuaire est un autel. On a trop de monde qui lève leurs mains. On ne pourra pas vous inviter tous en avant, mais tout le sanctuaire est un autel. Levez vos deux mains vers le Seigneur. Il dit, oui, Seigneur, touche-moi. Ouvre mon esprit. Fais avec moi ce que tu as fait avec les disciples. Je vais comprendre les Écritures. Enlève les blocages, les empêchements à cela. Je m'engage à aller plus loin. Chantez-le tous ensemble avant de prier. Jésus, me voici devant toi.
Tellement besoin de toi.
J'ai besoin de toi. Combien ont besoin du Seigneur ce matin? Levons nos voix, nos mains pour le chanter tous ensemble. Nous voici devant toi. Source d'exaspération pour toi. Je ne veux pas me manquer. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas gaspiller mon temps. Je veux une compréhension des Écritures. J'ai besoin de toi, Seigneur. Chantez-le, Jésus.
Me voici devant toi, Jésus.
demander de baisser vos mains pour un instant. J'ai à cœur de demander la question, pour combien vous êtes ici ce matin? Puis quand j'ai parlé des griffes de l'ennemi, les mains de l'ennemi autour de votre cou avec les soucis, les monstres de l'inquiétude qui sortent la nuit, que peut-être personne d'autre est au courant, mais c'est le panique, puis l'insécurité, puis la crainte à l'intérieur, puis vous avez l'intention. Jésus a dit, ça nous étouffe, les soucis du ciel, ça nous étouffe. La crainte face aux choses qu'on vit, face aux choses qu'on entend, face à l'avenir. Combien vous êtes ici ce matin? Je sais qu'il y en a parce que c'est l'ennemi si fort de mon cœur. De prier puis réclamer une liberté des griffes de l'ennemi, une fois pour toutes. Mais pour combien, quand j'ai parlé de ça, puis quand je parle de cela, vous dites, oui, c'est moi ça. C'est comme ça que je me ressens. J'aime la parole, j'aime Dieu, je vais aller plus loin. Mais je suis consommé par ces pensées, ces inquiétudes-là, ces soucis. Pour combien c'est votre cas? Vous dites, Pasteur Marc, prie pour moi. Parce qu'on veut prier pour votre liberté. Juste levez votre main vers le Seigneur. Combien le Saint-Esprit convaincre de cela. Juste levez votre main. Vous n'avez pas à avoir honte. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. On est là pour réclamer une liberté pour vous. Levez votre main. Vous dites, c'est moi ça. Je me ressens comme si l'ennemi a ses griffes autour de moi. Je m'inquiète la santé, la maladie pour mon couple, pour mes enfants. J'ai tellement de crainte et panique que je passe à côté de ce que Jésus veut faire. Il y a plusieurs, des centaines de mains ici. Mais on va réclamer la liberté pour vous ici ce matin. Jésus peut faire pour vous ce qu'il a fait avec les autres. Ils ont passé de la crainte à la joie. Ils ont passé de la confusion à la clarté. On ne veut pas passer à côté de ce que Jésus veut faire et ce que Jésus dit. C'est votre moment ce matin. Les disciples ont gaspillé leur moment avec Christ. Ils ont passé à côté de la profondeur. Ils ont passé à côté de la parole de Dieu. Mais c'est votre moment. C'est la fin. C'est la fin des consommés par ces pensées-là. C'est la fin de ces paniques. C'est la fin de ses soucis. C'est la fin de l'ennemi qui met ses griffes autour de votre cou. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. On va chanter ce chant encore une dernière fois. Ceux qui ont les mains levées, levez vos deux mains vers le Seigneur. Puis dites, oui, c'est mon matin de liberté. Bannis ces craintes inutiles, Seigneur. La parole de Dieu est claire. Ne vous inquiétez pas. Ce que Jésus a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Ce que Jésus a fait pour un autre, il est capable de faire pour vous. Ce que Jésus a fait depuis 2000 ans, il fait aujourd'hui parce qu'il est vivant. Il faut le croire. On va chanter une dernière fois un mot de prière, puis on va réclamer notre liberté tous ensemble. Chantez-le, Jésus.
Me voici.
Jésus est présent. Il est présent par son esprit ce matin. Jésus peut faire quelque chose dans votre vie. Le Seigneur va vous libérer. L'envie, jalousie, découragement. Le découragement vient de l'ennemi, ça vient de Satan. Jésus veut bannir le découragement dans votre vie et vous remplir de courage. Chantez-le une dernière fois tous ensemble. Et on va prier, on va le réclamer au nom de Jésus. Cœur Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, on se tient en ta présence, tu es là par ton Saint-Esprit, tu es vivant, tu es capable de faire aujourd'hui ce que tu as fait il y a 2000 ans avec ses disciples, tu es présent pour parler à notre cœur, tu es présent pour ouvrir notre esprit, notre intelligence, pour bien comprendre les richesses des Écritures, et ce matin, on fait une déclaration, un saint refus de l'inquiétude pour l'avenir. C'est un saint refus de l'inquiétude, les soucis et la crainte. On les refuse au nom de Jésus-Christ. On réclame notre liberté. Merci que tu vas pouvoir, merci que tu vas guérir, merci que tu es présent, merci que ce que tu as fait dans le passé, tu vas le faire aujourd'hui et tu vas le faire demain. Et je refuse les soucis inutiles, je refuse le faux sens de culpabilité, je refuse de demeurer aux surfaces et je prends une déclaration ce matin, je vais aller plus loin et plus profond et cette semaine, quand je rouvre la parole de Dieu, je vais avoir une fraîche révélation des Écritures, une fraîche révélation de Jésus-Christ. Mon cœur va être en feu pour toi et tu vas me transformer. Jésus, je réclame une liberté des soucis. Que les griffes de l'ennemi soient enlevées au nom de Jésus-Christ. Que rien n'empêche que la parole de Dieu porte de fruits dans nos vies. 30, 60, Seigneur, au centre de notre vie. Qu'on refuse de manquer ou passer à côté de ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, par des soucis semés par l'ennemi. On le refuse au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est bon et le ciel est notre destinée. Et Jésus va nous emmener sain et sauf par sa grâce et son esprit et sa parole. Et on choisit de l'échanger la crainte pour la bonté du Seigneur. Échanger les crises pour la célébration. Échanger les problèmes pour le party. Parce que Dieu est bon, le Seigneur est là. On l'accepte au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, Seigneur, la richesse de ta parole va nous réveiller tous les jours. On le réclame au nom de Jésus. Et tous les hommes et les femmes libérés au nom de Jésus-Christ peuvent pousser un cri de joie et donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur Jésus-Christ. La fin des soucis, la fin des inquiétudes, la fin de la crainte. Dieu est bon, il est fidèle. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour cette riche compréhension de ta parole. À toi seul.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.